I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et d'un coup, genre, on sent que l'avion, il descend vite, fort, pas en chute, hein, mais genre, il accélère, mais vers le sol, tu vois. Et vraiment, Amine, il me regarde et tout. Et je fais, non, mais il se passe un truc bizarre. Il fait, ouais, il se passe vraiment un truc bizarre. Et donc, on sait pas ce qui se passe, ça descend et tout.
Les ceintures.
Ça fait ting, comme ça et tout.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximusca et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-morts à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invitée du jour est la comédienne Alice David. On l'a découvert dans Bref. Depuis, elle enchaîne les rôles au ciné. Pour moi, c'est aussi la meilleure incarnation de celle que je considère comme la plus grande aventurière du monde entier de tous les temps de ma PlayStation. Oui, je parle bien de Lara Croft, du jeu Tomb Raider. Dans la vie, sa passion pour le surf l'amène à vivre des aventures sur plusieurs continents. Lors d'un tournage, ce qu'elle a vécu dans un avion devrait vous faire préférer le train plus efficacement qu'une pub SNCF. Mais avant qu'Alice nous fasse un peu flippé et nous raconte ses autres aventures, je dis bonjour à Marie.
Bonjour.
Comment ça va, Marie?
Ça va super.
Joyeux anniversaire.
Merci.
C'est pas longtemps. Bon, alors il y a une petite perceuse là, qui les voisins se sont mis à faire des travaux, on va voir si comment ça se passe, mais bon, normalement on sera peut-être 4 aujourd'hui. Bonjour Alice, comment ça va Alice?
Bonjour, très bien.
Alors tu sais Marie, Alice elle fait un projet en ce moment sur Amazon, le concept c'est Kiri. Sort, c'est un truc comme
oui,
ça.
Oui, ouais, exactement. J'ai la ref. Voilà. Ça s'appelle LOL saison 2
ouais.
Sur Prime Video.
Je pense que toi, tu durerais peut-être 2 secondes dans
deux
le programme.
C'est hardcore. Nul.
C'est ouais. Hardcore. Je sais, c'est vraiment très très dur.
Ah mais j'imagine. Ouais. En plus, j'ai déjà fait ça avec ouais. Mes potes de ce truc d'essayer de parir genre en petit comité.
C'est
vraiment,
mort.
C'est 8 secondes.
Bah oui, non, mais ça. Ouais.
En plus, c'est ma hantise. Faire des blagues et les gens ne crient pas, c'est ma hantise.
Bah c'est te prendre bide sur bide en permanence.
C'est horrible.
Ouais, c'est très long, c'est très dur et.
Alors ouais, alors j'explique un peu le contexte. J'ai croisé Alice il y a quelques jours au spectacle de Laura Felpin, d'ailleurs, excellent spectacle.
Excellent, ouais.
Je recommande.
Excellent. Je parle très bien, en tout cas.
Voilà, donc ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, on discute un peu, on se raconte un peu des nouvelles, les nouveaux projets, tout ça. Je lui explique que j'ai un podcast avec mon amie Marie sur le voyage, et d'ailleurs, si elle a quelques anecdotes, elle était la bienvenue dans Tourista, et là, elle me dit « Ah bah, si tu veux, j'ai la pire anecdote du monde dans un avion », et j'ai fait « Wop, hop, 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 n'en dis pas plus !» Et attends que je branche le micro, donc voilà. Je sais que t'as une super anecdote, enfin une super, apparemment, ouais. C'est un petit peu flippant.
On c'est va pas la... ouf, ouf.
C'est ouais. Pas ouf, ouf.
C'est pas génial. En tout cas, c'est hyper bien pour pousser les gens à prendre le train, voilà. Ce que tu disais tout à l'heure. Voilà.
Ça va être un épisode très écolo aujourd'hui. C'est parfait. Mais garde cette petite anecdote pour tout à l'heure. On va faire l'épisode comme d'habitude. Pour démarrer, déjà, normalement, on demande aux gens de se présenter en anglais pour retrouver un petit peu cette ambiance auberge de jeunesse avec des bruits de travaux, de perceuses au-dessus. C'est une auberge de jeunesse en travaux aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en anglais comme s'il y avait des étrangers autour de toi?
Écoutez, absolutely, I have a really bad English accent. My name is Alice David. I'm coming from Paris. I am an actress in Paris because I have so bad English, so I cannot work anywhere else. And that's it.
French accent.
I am an actress, ça m'a fait.
I am an actress. Non, en vrai, j'ai une phase dans ma vie où j'essaie de parler avec un bon accent anglais et ouais. Personne ne me comprenait.
Ah oui.
Et du coup, je me dis, au plus je pousse l'accent français, au mieux on me comprend. Donc j'ai lâché l'affaire sur l'accent.
Bah, tu peux avoir des rôles de française qui parlent pas très bien
ouais.
Avec l'accent anglais.
Ce serait à peu près tout, quoi.
Ça
reste mieux que
ça
tu
se
sais,
travaille, hein,
les Américains bon. Qui imitent l'accent français.
C'est le pire des trucs.
Paul, le wedding planner, ah dans oui. Toutes les séries, là. Oui, baguette. Là.
C'est un
personne ne parle. Il y a pas une phrase qui est cohérente. Truly parisienne, so.
So truly parisienne, ouais, vraiment truly parisienne. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, dans le 15e arrondissement de Paris.
Du coup, le fait que tu habitais à Paris, ça t'a peut-être permis de voyager plus simplement. Est-ce que tu peux nous parler de ce rapport au voyage, Alice, s'il te plaît?
Écoute, en vrai, j'ai commencé à voyager hyper tard, moi. Mm-hmm. J'ai dû prendre l'avion pour la première fois à 20 ans. Avec mes parents, on voyageait pas vraiment, pas du tout même. Et je vois un grand-parent, colonier de vacances, mairie de Paris, tout ça quoi.
Ah, ouais. Intéressant, on n'a pas eu trop d'histoires de colo.
J'avais pas prévu de partir là-dessus, mais pourquoi pas. Non, franchement, pourquoi pas. Et en fait, j'ai commencé à voyager pour le taf. Moi, j'ai le premier voyage que j'ai fait, le premier gros truc que j'ai fait, c'est que je suis partie tourner une pub pour Coca Zero en Argentine, à Buenos Aires.
Oh, ouais. Sympa.
Ouais, c'était vraiment chambé.
Et c'est vrai que sur Wikipédia, il dit que c'est un peu ton premier projet au Coca-Cola.
Je sais pas pourquoi je reparle de ça.
C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est le truc
t'es
après.
La meuf de Coca Zéro.
meuf de Coca Zéro.
Non, mais là, ça a du sens que t'en parles. Alors, Argentine, premier tournage, trop stylé.
Premier tournage, très très stylé et tout. Ouais. En fait, c'est hyper rapide parce que tu te rends compte que quand tu pars pour bosser, au final, tu pars. En Argentine, t'as un peu plus de temps parce que vraiment, c'est loin, t'as du décalage horaire, etc. Mais en gros, tu tournes 2 ou 3 jours et t'es sur place 6 jours max, quoi. Donc tu fais des essayages costumes, une répète ou je sais pas quoi s'il y a besoin, et tu tournes et ensuite tu ciao quoi. C'est vraiment avion et salut.
Ah oui, t'avais même pas pu gratter pour rester un peu.
Non, trop pas. C'était.
Et c'était une pub française ou c'était une pub worldwide?
Non, c'était worldwide.
Worldwide.
Non, ça m'avait bien payé mon loyer pendant quelques temps cette pub.
Sympa comme première expérience.
Ouais, c'était cool, ouais. Et en vrai, après, j'ai continué à voyager vraiment pour le taf. Après, c'était Babysitting 2, on a tourné au Brésil.
Oui.
Ouais, avec toute la même équipe que sur le 1 et tout, c'était vraiment chambé. Mais pareil, là, moi, j'étais là, je me dis, ah super, je pars 2 mois et demi au Brésil, je vais pouvoir rider dans le pays, je vais aller partout, quoi, tu vois. Et là, vraiment, les producteurs, ils m'ont dit, non, vous partez pas à 2 meufs avec Charlotte Gabrys qui tournait avec moi tout le temps.
Les assurances, elles veulent pas,
non,
c'est ça ?
Non, ouais, on n'a rien pu faire, en vrai. Bon, c'était cool, hein, on était à Itacaré et tout, c'était vraiment bien, mais voilà.
D'accord. Donc
mais j'aime bien voyager comme ça, en fait, parce qu'au final, tu es dans un truc très concret, tu n'es plus du tout dans un truc de touriste. Tu bosses avec les gens, donc tu rencontres vraiment les gens dans leur vraie vie et tu n'es pas du tout dans un rapport à « bonjour, je vais découvrir comment vous vivez ». Et je trouve que c'est beaucoup plus concret.
Est-ce que les gens que tu croisais, qui travaillaient là-bas, ils t'ont permis de découvrir un peu des lieux, enfin, ils t'ont emmené découvrir des
Brésil ? Bah, en tout cas, pour Buenos Aires, non, mais après, bon, j'avais ma sœur qui a vécu là-bas longtemps, donc c'est encore une autre histoire. Mais en gros, oui, au Brésil, on faisait les week-ends, on était tous en équipe, en fait. On restait tous, évidemment, c'est pas genre tu rentres chez toi samedi, dimanche, quoi. Et du coup, on faisait plein de trucs, quoi, avec toute l'équipe technique et tout. Donc,
encore une fois, colonie de vacances, hein.
Ouais, souvent. Hein. Mm-hmm. Souvent, les tournages en province ou à l'étranger.
Ouais, j'ai vu que là, t'as tourné dans les Pyrénées, là, il y a pas longtemps. J'ai vu quelques moutons dans des chèvres.
Alors, j'étais vraiment en coloc avec des moutons. Ah, ouais, ouais, non, mais c'était des moutons.
Des moutons, aussi.
Ouais, des moutons, des patous, des enfants. Tout ça, c'est très bizarre d'avoir mis enfant au milieu des moutons.
Qui vivait avec les moutons d'ailleurs.
Non, c'était ouf. En vrai, c'était un super beau film. C'est un espèce de reboot de Belle et Sébastien. Et donc, on a vraiment tourné avec une petite équipe dans les montagnes avec un réalisateur qui s'appelle Pierre Corré, qui est un mec génial. Et ouais, on était totalement en autarcie, quoi. On a fait une première partie, on a tourné à Lourdes. Enfin, on était logés à Lourdes, donc là, c'était très particulier. Mmh.
Ah ouais.
C'est très.
Vous étiez les bienvenus ou alors
Ouais, complètement. Mais après, je trouve que c'est une ville très paradoxale parce que au final, t'es vraiment dans le cœur de la religion, etc. Mm-hmm. Le miracle, quoi. Voilà, Bernadette Soubirous, c'est tout ça. Et en fait, t'as des gens qui viennent avec beaucoup de charges émotionnelles et tout ça. Donc c'est assez particulier. Toute l'équipe, nous, par exemple, on n'a pas dormi pendant 3 jours, tu vois. Je sais pas pourquoi, tout le monde était là, j'arrive pas à dormir, c'est ouf.
Ah, les étoiles, Marie, non ?
Y a pas une personne qui a fait « Ah bah moi, super !»
Non, je te jure, non mais vraiment, c'était fou, on était tous pas hyper à l'aise. Et en même temps, il y a un rapport au business de la religion qui est très fort, genre t'as que des boutiques avec beaucoup de trucs à vendre, etc. Enfin, du coup, c'est un truc pas ouf. Et au final, tu vas te balader un peu le soir et tout, et... En fait, la communion des gens est assez folle. Je trouve ça très paradoxal, quoi. Et ensuite, on a tourné dans les montagnes. On est parti dans un village qui s'appelle Luz Saint-Sauveur, qui est une station dans les Pyrénées et tout. Et on a fait encore un mois là-bas. Et c'était vraiment ouf.
Eh bien, tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure, mais avant cela, Marie a préparé son fameux quiz.
Elle quiz.
Voilà, je ne sais pas ce qu'elle a préparé, mais à chaque fois, est très très créative.
Quand on a reçu Alice Moitié, j'avais fait un quiz spécial Alice, parce que ma mère s'appelle Alice, et du coup, c'était que des anecdotes avec Alice. Je me suis dit, je vais pas refaire ça, parce qu'on va pas parler de ma mère à chaque épisode.
Pourquoi
donc, c'est
pas
un quiz. Écoute, attends, ça pourrait. Mais il faudrait qu'on l'invite, un jour peut-être.
Je suis allé, d'ailleurs, il y avait l'anniversaire de Marie il n'y a pas longtemps. Je suis allé chez elle. J'ai découvert les carnets de voyage de Alice de Breuer, la mère. La mère de Marie, elle revient avec des. Donc, les carnets de voyage, c'est des énormes livres d'aquarelle, non, c'est ça c'est...
Elle fait de l'aquarelle, oui, c'est des pages.
Et en fait, elle fait des grandes pages, un peu, genre des grosses A4 à peu près, quoi.
Ok.
Et chaque page, en fait, c'est un dessin comme qu'elle dessine des lieux qu'elle a visités, des gens qu'elle a rencontrés avec des petits mots. Quand elle est dans une vue trop bien, elle le refait en aquarelle. Et
très
c'est
stylé.
Hyper beau, j'ai halluciné.
Les carnets de voyage. Ma mère fait même des voyages que pour ça. Genre des voyages carnets de voyage. Prends ton carnet, tu pars en équipe et tu te poses pour dessiner.
Mais c'était un trop bon concept. Bah, j'étais,
mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on invite ma mère.
Le fait, c'est bientôt la fête des mères. Bah, Alice, si tu nous écoutes, mets-nous un like. Hein.
Ouais. Et donc le quiz, c'est pas un quiz spécialiste, mais un quiz spécial David. C'est.
Et oui, ta 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 ta.
Et David, c'est pas un mec que je connais. Vous allez voir, c'est juste David.
David et voyage. Hein.
David Bowie. Première question.
Ah.
Partait en tournée à travers le monde avec quelque chose de particulier avec lui en tournée de concert. Un truc vraiment pas pratique à transporter. C'était quoi à votre avis?
Est-ce qu'on peut avoir un indice à part pas pratique à transporter? Parce que un balai par exemple, c'est pas pratique à transporter.
Lit, son lit, dormait toujours dans son lit à
non.
lui.
Non.
Ah, c'est pas une
mais
mauvaise idée
ça. Mais c'est alors c'est pas un truc du genre, mais c'est vraiment à ce point-là pas pratique. Mais nous peut-être quand on part en voyage, on peut en prendre quelques-uns. Mais sauf que lui, il en prend beaucoup.
Ses plantes, il prend ses plantes.
Non,
non ses
une
animaux.
Plante en voyage.
Non,
ses animaux. Ses animaux.
Ah, ses peluches, ses peluches.
Non.
Les gens n'ont pas le visuel, mais il était très heureux de dire « C'est peluche, c'est peluche
ouais. !» C'est quelque chose d'utile pour passer le temps.
Des livres, ces livres ?
Oui.
Ah,
pour sa bibliothèque.
Il avait une sorte de librairie de tournée.
Magnifique.
De 400 livres.
Ça, ouah, ça, c'est
il a pas un Kindle, celui-là, ou quoi ?
Bah, c'est ce que je me suis dit.
Mais tu sais que c'est moi aussi, j'ai vraiment un toc avec ça, c'est que je suis obligée de prendre plusieurs livres parce que j'aime bien lire, surtout en voyage, c'est vraiment l'endroit où tu débranches le cerveau et tout. Et je suis hyper emmerdée. Ah, mais je peux pas lire sur un écran. Je dois lire les scénarios sur les écrans et tout. Et ça me mais c'est vraiment genre une douleur pour moi.
Okay.
Et du coup, quand je pars en voyage, je dois prendre genre 4, 5, 6 bouquins en me disant, bah, s'il y en a un qui me saoule, il faut que j'ai un backup. Puis s'il y en a un que je termine. Enfin voilà. Bon.
Ça, c'est une galère.
Donc,
hein,
je comprends beaucoup. David Bowie.
Ça prend de la place. Hein.
It's connecting.
David Bowie, un peu la même personne. Non,
attends, je suis en train de chercher mon Kindle. Vraiment... T'as déjà testé la qualité
parce que
des
pas, c'est pas un iPad. Hein.
Parce que non, c'est une qualité c'est qualité
mais
papier.
Mais j'aime
quoi.
Trop l'objet, moi. C'est...
Non, oui, je comprends.
Je suis une vieille personne, ça y est.
Mais en vrai, quand tu pars de moi, la Kindle, elle est fatale.
Ouais, je pense aussi.
Parce que
ouais.
c'est trop... C'est vrai que 2-3 semaines, tu peux prendre des bouquins.
C'est en mode sac à dos, que tu te déplaces beaucoup. À la fin,
ouais, puis là, je voyage léger, moi, en plus. Maintenant, j'en ai marre de trimballer des doses.
Dans la Bible, on peut lire l'épisode du combat de David contre Goliath. David, un jeune fils de berger qui abat le géant Goliath avec un caillou lancé d'une fronde. Mais où se passe cet épisode dans le monde ?
Waouh ! Alors là, vraiment, on est sur un vide pour moi concernant...
Bah attends, tu reviens de Lourdes, tu devrais savoir.
Bah, ouais.
T'as pas lu la Bible, ce qui est biblique.
Déni, du coup, ouais.
Bon, c'est moi, je suis joker de ouf. Hein.
Un pays au pif
ouais, je sais pas, l'Espagne.
Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que c'était évident. Mais écoute, c'était en Judée, en Israël.
Ah, bah, voilà.
Franchement, tu sais quoi, j'ai failli le dire. J'étais là, ça va être un piège. Donc, je vais dire non. Ça, voilà.
Non, c'était okay. pas. C'était pas vraiment okay. le très simple. Mais c'est juste parce qu'il y avait David. Bref. La statue de David.
Oui, Marie.
Réalisée par Michelangelo au XVIe siècle est exposée.
Michelangelo.
Michel-Ange, comment on dit ?
Alors dans Michel-Ange. Les Tortues Ninjas, je crois, on dit Michel-Ange.
Moi j'ai toujours dit Michel-Ange, mais.
Non, Michel-Ange, Michel-Ange.
Ça
va, c'est peut-être, je sais pas.
Lui, c'est
un gars qui sort de Love Story, il s'appelle Michel-Ange.
Il est très bon en dessin, pardon.
Le mec a fait la statue de David.
Elle va pas finir son quiz.
Bon, cette statue de David est exposée à Florence, mais combien de mètres mesure cette statue ?
Ah.
Allez, vous pouvez aller dans de la virgule aussi, si ah ouais. Vous voulez la tenter.
Allez, 27,8.
Mètre.
Centimètre. Je sais pas, attends, c'est combien?
C'est en mètres.
Non, 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 7 mètres. 7 mètres 25.
7 mètres 25.
Ouais. Moi, je dirais 4 mètres 2.
Eh bien, entre les deux. C'est 5 mètres 17.
Ah ouais.
Ah ouais.
Voilà.
Et ça, David Bowie, il peut pas voyager avec, je peux vous le dire.
Ah bah, c'est compliqué, ça, ouais.
Mais très... elle est très, très belle. Franchement, j'ai vu des photos. Je suis pas allée la voir, mais ça a l'air très beau. Dernière question. David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd, a fait un concert dans un lieu exceptionnel en 2017. Lieu où, avec son groupe Pink Floyd, ils avaient déjà joué en 1972. Mais quel est ce lieu historique?
Les pyramides, non?
Non.
Oh là là, mais oui, ça va être un délire comme ça, attends.
Un truc...
Il y a un live vidéo, d'ailleurs, de ce concert qui est exceptionnel.
Ouais, mais je l'ai vu, je l'ai vu. Vraiment, on est sur un vide. Il n'y a pas beaucoup de sable?
Non.
Ah, d'accord. Je sais pas.
Il y a de la ruine, enfin, il y a de la...
Ah, il y a de la ruine. Ah, en Grèce? En Grèce?
Non.
Jordanie?
Non. On met...
Ah, un indice.
C'est... Bon, volcan.
Pompéi?
Oui.
Ah, oh, yes, ah, oui.
À Pompéi.
On enlèvera l'indice. On dirait que j'ai trouvé direct ou pas?
Bien ouais. Sûr, bien sûr, je
comprends. Évidemment, on coupe magnifique. Direct. Et oui, à Pompéi, Pink Floyd avait fait un concert qui, ah, d'ailleurs, oui. La vidéo est incroyable. Et lui, il l'a refait
en 2017. Vas-y, je vais regarder ça, c'est dans ma to-do de YouTube maintenant.
Il l'a refait tout seul?
Ouais.
Et genre, pourquoi tout seul?
Parce que... Bah...
Mais voilà. Non, mais c'est marrant de faire des...
Je botte
alors
en touche.
Alors, on fait des quiz, mais... Hein,
Ouais, à chaque fois, non, elle a pas la deuxième info.
La moitié
bonus.
Des infos.
C'était un super quiz. Oh, Alice, t'as gagné, on va dire.
Merci, j'ai gagné un Haribo.
Alors, Ali, moi, j'avais envie que tu me parles de ta passion surf. Alors, je vois sur Insta, tu surfes pas mal, j'ai l'impression.
Ouais.
Et ça te permet aussi de voyager, du coup.
Ouais.
Comment
ouais.
C'est arrivé Tu peux nous raconter ça?
Écoute, en fait, j'ai commencé à surfer il y a 5 ans et demi, 6 ans, quelque chose comme ça, en voyage. Ouais. Donc, attention, phrase très relou. Vraiment personne à qui on a envie de mettre des tartes.
Aïe.
Au Costa Rica.
Ah là là.
Allez. Voilà, donc j'ai commencé comme ça, j'y croyais pas trop. Franchement, je me disais, ouais, c'est un peu un sport de gens qui regardent la mer pendant très longtemps et qui vont être relous, quoi. Enfin, voilà. Et en fait, non, ça m'a piqué complètement. Faut savoir que le surf, c'est très, très chiant au début. Tu fais que...
Ah ouais, mais ça me fait trop peur.
Ah ouais, tu fais que de péter la gueule, tu te prends ta planche dans la tronche et tout ça. Mais par contre, les quelques secondes que tu vas passer à glisser, elles sont assez folles. Et ça m'a complètement piqué. Ça veut dire qu'après, enfin, depuis ça, malheureusement, en vrai, je voyage quasiment que pour ça. Donc, je vais chercher des vagues que j'ai envie de surfer. Je vais aller dans... Vraiment, voilà. J'ai un peu du mal à construire un voyage ailleurs que pour le surf. Il faut que je me force maintenant un peu à le faire. Mais, enfin, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de voyager encore, mais voilà.
Bien, bah comme la mère de Marie, elle, c'est pour le dessin. Toi, t'as trouvé ton truc, mais c'est trop bien d'avoir
c'est
son moteur.
Bien, ouais.
Et alors, c'est où qu'on a les meilleurs spots?
Waouh, bah il y a plein d'endroits de ouf. Déjà en France, en vrai, on est hyper bien lotis.
Ouais.
C'est
ah
juste
ouais.
Que.
Osgore.
Ouais, dans les Landes, Pays Basque, Bretagne. Moi, j'ai pas surfé beaucoup en Bretagne, mais il y a vraiment des spots qui apparemment sont complètement fous. Sinon, bah là où j'ai vraiment kiffé, moi, je suis allée au Mexique il y a pas longtemps. C'était assez exceptionnel. L'Indonésie. Regorge de vagues incroyables. Bali, j'ai fait Sumbawa. Il y a plein d'endroits où je rêve d'aller. Je suis pas encore allée. Le Sri Lanka aussi, c'est assez incroyable. Et le Maroc. Alors vraiment, le Maroc, c'est fou parce que c'est vraiment à portée de... j'allais dire demain, mais d'avion.
Ou de bateau,
pour ceux qui ont vraiment du temps. Et non, en vrai, il y a beaucoup de surf partout dans plein d'endroits qu'on ne soupçonne pas.
Tu vas dans un spot et tu surfes tous les jours? Ou c'est genre juste tu vas te faire quelques jours de surf et après...
Non, globalement, je suis vraiment monomaniaque et j'arrive sur un spot, j'ai digué vraiment l'endroit où je voulais aller, la vague, etc. Genre là, par exemple, le dernier en date, c'est le Mexique. Je suis partie toute seule, j'avais ultra envie de me barrer, j'avais ultra envie d'aller loin et tout. Et il y a une vague que j'ai découvert il y a quelques années et que je rêvais d'aller surfer.
Quand tu dis digger, ça veut dire que tu cherches sur Internet ou
Ouais, cherche sur Internet, je demande à des potes surfeurs aussi, ouais. Tu vois, des conseils et tout, parce que moi, on m'a dit « Ah, Mexique !» J'étais là « Ouais, une meuf solo au Mexique, ça va et tout. » Et on me dit « Oui, ça va, ça dépend ce que tu fais. » Enfin, il y a des petits trucs de sécurité à savoir, mais genre, en vrai, tout va bien, quoi. Et du coup, ouais, je suis partie là en me disant je verrai bien combien de temps je reste, je verrai bien si ça me plaît et tout. Et au final, vraiment, je suis restée, je devais rester initialement 2 semaines à peu près, et je suis restée quasiment 1 mois. J'ai décalé une première fois parce que j'avais envie de prolonger un petit peu et j'avais pas d'urgence à rentrer. Et évidemment, après, j'ai chopé le Covid, donc c'était obligé. très relou de choper le Covid là-bas.
Mais en plus, au Mexique, c'était genre, c'était open, c'était open
non,
bar,
mais
non
au Mexique, c'est la vie d'avant. Ah, c'est ouais. Que vraiment, limite, le masque, tu ne sais plus ce que c'est la teuf partout. Ah,
j'avais plein
c'est...
de gens partir, tu sais, je dis,
mais c'était le stories, seul pays ouvert ouais. et le seul, enfin, à ce moment-là, moi, je suis partie en décembre, c'était le seul pays un peu ouvert, un peu cool, un peu chill, où tu pouvais arriver sans test, sans machin, enfin, en vrai, c'est n'importe quoi.
Oui, hein, parce mais... que du coup... T'as quand même chopé le Covid, quoi. C'était pas juste
là-bas au
Mexique.
Mais du coup, j'ai totalement chopé le Covid. En vrai, j'étais vraiment très sage pendant ce voyage, mais j'ai juste fait 3 jours à Puerto Escondido avec une amie d'enfance qui vit au Mexique. Et je me suis retrouvée catapultée, genre au milieu de 45 personnes, que des gens qui font du parachute et tout. Enfin, vraiment, c'était fou. Et énorme teuf. Et évidemment, une teuf, ciao, quoi. C'est terminé. Et tout le monde. Et après, elle me racontait, moi, je suis repartie après. Surfer et genre elle me disait mais en fait on reste que nous tous ensemble, on est tous covidés 1000 et on fait la teuf ensemble quoi. J'étais waouh.
Comment on dit cluster en espagnol?
Cluster. Aucune idée, c'est pas du tout.
Tout à l'heure tu disais t'as découvert une vague parce qu'il y a des vagues connues genre.
Ouais, il y a des vagues connues. Ouais, il y a plein de spots connus.
Genre au Portugal apparemment il y a la plus grande vague d'Europe, c'est pas
ouais,
ça? Genre,
Nazaré.
Ouais, Nazaré. C'est...
Nazaré. Donc,
tu vois, je connais la vague de Nazaré moi, bon, bah, celle que tout le monde connaît. Mais,
ouais. Mais en fait moi, ça c'est vraiment un truc de fou cette vague. C'est genre par exemple s'il y a un truc où j'irai jamais c'est là.
Ouais, ouais.
C'est si tu veux mourir tu vas là-bas.
Parce qu'elle est trop grande.
Bah c'est un immeuble je crois le truc.
Ouais, c'est un immeuble, c'est un autre sport en fait. C'est plus du tout. Moi je fais du surf de pépette. Hein. Je prends des vagues petites, du longboard et c'est tranquille quoi. Mais là tu vois les mecs ils se jettent sur des vagues qui font 25 mètres. Enfin les mecs et les nanas d'ailleurs parce que Justine ouais. Dupont, ouais, Justine Dupont, immense surfeuse. Elle s'envoie. Mais c'est mais pour moi c'est délirant quoi.
C'est effrayant.
C'est de la pulsion de mort.
Tu vois
vraiment.
C'est effrayant. Ils y vont en jet ski. Ouais, ils se font lâcher en jet ski ou même parfois non. T'as pas en hélicoptère non. C'est un autre truc.
Non
ça.
Non. Enfin je crois pas.
Le truc monstrueux, grossi. Toi c'est pas ça donc un autre truc.
Ouais. Non mais globalement en gros. Pour le voyage de surf, c'est ça quoi. C'est il y a des spots dans lesquels j'ai envie d'aller, des vagues, etc. Puis après, tu te laisses un peu porter. Mais là, typiquement au Mexique, j'étais vraiment bien et j'avais pas envie d'être dans un truc où je bouge tout le temps. Donc j'ai vraiment pas bougé. Donc c'était un peu genre c'est pas ultra marrant à raconter, mais moi j'avais besoin d'introspection, j'avais besoin d'être un peu toute seule. Et c'est vrai que le surf c'est une super dynamique pour ça. Enfin ça te permet d'installer un rythme et tout, une routine. J'avais vraiment envie de ça. Ouais. Et j'allais surfer le matin, le soir. Et j'ai poncé le spot. J'ai vraiment surfé beaucoup.
J'allais te demander, enfin tu viens de répondre à la question, mais tu fais pas de rencontres dans ces cas-là? Parce que moi en général quand je voyage tout seul, au final
tu rencontres mille personnes,
à voyager avec des gens à la fin.
Ouais.
Et mais oui non, là tu y allais vraiment plus.
Bah ouais, après j'ai rencontré énormément de gens. Mm-hmm. J'ai surfé avec, enfin là-bas j'ai rencontré plein de gens, plein d'étrangers, etc. Après je suis pas partie en trip avec eux derrière, tu vois. Mais oui, c'est le voyager tout seul, c'est vraiment le mode où tu rencontres le plus de monde quoi.
Et t'avais déjà voyagé seule? T'as voyagé plusieurs fois toute seule?
Très peu. J'avais fait New York toute seule. Ça c'était ouf. Pareil, j'avais rencontré plein de gens, mais c'était pas très long. J'étais restée 5-6 jours. En fait, j'avais un shooting photo à New York et je devais ensuite aller à Montréal. Et en gros, j'ai dit bah non, mais mettez-moi un billet de retour plus tard quoi et je reste. Et en fait, je suis restée solo à New York et j'ai atterri genre chez un pote d'une pote, un mec que je connaissais pas et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. Et en fait, j'ai rencontré énormément de monde là-bas, des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, qui sont toujours des potes. Et puis des gens de plein de nationalités différentes. Ouais, quoi. Et ça, bien. C'est vraiment... Et sinon, je l'ai fait en... Après, c'est en tournage, quoi, quand tu pars et tout. Au début, tu connais personne. Après, c'est pas la même rêve. C'est qu'après, tu travailles quand même avec des gens. Donc, c'est beaucoup plus facile, quoi. Mais... Non, voyager toute seule, je ne l'ai pas beaucoup fait. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai envie de continuer à faire.
Ouais, voilà.
Ouais.
Avec l'expérience du Mexique, c'est trop bien. Hein.
Ouais, ouais, franchement, de ouf. C'est fou.
Je l'ai déjà raconté dans Tourista, mais moi, c'est vrai que j'ai déjà fait des voyages avec des potes et tout. Mais les gros voyages, genre vraiment très très loin dans le monde, j'ai commencé en les faisant toute seule, quoi.
Ouais.
Et c'est tellement kiffant. Enfin, voilà.
Bah, t'es dans une autre perspective, quoi. Tu découvres les choses et les gens un peu différemment. T'es dans une ouverture, dans une disponibilité. Ou pas, hein. Enfin, moi, au début, quand je suis arrivée en voyage, j'ai eu une grosse année de boulot. Et j'étais vraiment fatiguée, quoi. J'avais vraiment envie de me poser, de lire, d'écrire, de faire des trucs pour moi, de surfer et tout ça. Il m'a fallu un petit temps pour m'ouvrir aux autres. Genre vraiment, je sais qu'il y avait des gens qui venaient me voir, qui venaient me parler et tout. J'étais là, ouais, super et tout. Fais le truc ce soir, j'étais là.
Non. Pas ouf, pas hyper envie. Et petit à petit, oui, tu vois, mais...
Manon Bril, qui est repartie en Thaïlande il n'y a pas longtemps, elle est partie toute seule et elle disait, il y a un truc qui est trop bien, c'est que c'est moi qui décide tout.
Exactement.
C'est vraiment choisi, c'est moi qui... Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'elle a vraiment insisté plus en plus.
Non, mais moi, je suis pareil.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est toi qui gères tout ton planning, tout ce que tu as envie de faire. Tu fais que ce que tu as envie. Et ça, c'est ouf.
Il n'y a pas de compromis à faire. Alors que, enfin, c'est sympa aussi, les compromis, quand tu partages des moments avec des gens en voyage aussi. Mais là, enfin, c'est tellement agréable, ouais, c'est ça. Tu fais ce que t'as envie, tu décides, t'as envie de te barrer, tu te barres, t'as envie de rester, tu restes, t'as envie de dormir, tu dors, enfin...
Ouais.
C'est incroyable.
J'ai vu sur Insta, tu parles d'un truc qui s'appelle Swell House, je crois que c'est en lien avec le surf, tu veux en parler ou pas du...
Ouais, bien sûr.
Qu'est-ce que c'est ?
Swell House, en fait, c'est un truc que j'ai monté avec des amis. C'est pas un truc que j'ai monté, d'ailleurs, une maison de surf, en fait, on peut appeler ça comme ça. C'est un genre de surf camp où, en gros, on en a deux. On en a un au Sri Lanka et un au Maroc. Et en fait, c'est des lieux dans lesquels tu viens et tu construis ton séjour autour du surf, du yoga, de ce que tu as envie de faire. Et donc, on propose hébergement, bouffe, cours de surf, initiation, yoga, enfin, tout ce que tu as envie, un peu, tu construis vraiment à la carte. Et on a ouvert ça. Alors, au Sri Lanka, on l'a depuis 3-4 ans. Et le Maroc, on l'a ouvert 5 mois avant le Covid.
Yes.
Yes, I am. Voilà, et ça a très bien marché, c'était super, on a eu plein de monde. Et en fait, on a beaucoup de gens qui sont venus aussi juste pour, tu sais, pour taffer. J'ai des amis à moi qui font de la musique qui sont venus composer là-bas.
Trop bien.
Ouais, t'as plein de gens qui sont un peu genre...
Ça fait un peu retrait, pardon, je coupe.
Non, vas-y.
Comment on appelle ça quand les artistes, ils viennent créer dans les endroits?
Des résidences.
Voilà, des résidences. Et en vrai, c'est un peu ce qui s'est passé. Ouais, y a plein de gens qui sont venus bosser, il y a plein de gens qui se sont rencontrés comme ça, qui sont revenus taffer ensemble là-bas. Et nous, on savait pas comment ça allait prendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent tout seuls avec le surf. Mmh. Et en fait, du coup, ça fait vraiment des grosses communautés. En plus, nous, le concept, c'est tu peux vraiment être indépendant, tranquille. Il y a de l'espace, c'est bien conçu pour que tu puisses avoir ton coin. Et en même temps, si t'as quand même des repas collectifs le soir et tout ça, donc en vrai, si t'as envie de rencontrer des gens, c'est parfait, quoi.
Tu peux y aller pour une première, enfin si t'es nul en surf, enfin si tu
totalement.
Sais pas, ouais, c'est pour une première fois, c'est trop bien.
Ah ouais, totalement, tu peux complètement faire une initiation,
ouais.
tu peux arriver là-bas et ne pas du tout savoir surfer, en fait. C'est le principe, c'est juste t'as envie d'essayer, t'as envie de kiffer un peu, de découvrir cette culture-là. C'est vraiment autour de la culture du surf, donc tu peux venir si tu sais hyper bien surfer, tu peux te démerder tout seul, aller là où tu veux. Et si t'as besoin d'un encadrement, y a des profs qui sont là pour t'encadrer, pour t'aider, donc voilà, c'est cool. Et puis tu rencontres des gens, franchement, nous on a trop kiffé, quoi. En 5 mois d'exploitation avant le Covid, maintenant ça continue, c'est toujours ouvert et tout, c'était vraiment ouf, quoi.
Trop bien.
Ouais. Et là j'y retourne jeudi.
J'entends souvent, ouais, que ça a des vertus un peu thérapeutiques. Le surf, c'est un peu lié au bien-être non, il n'y a pas un truc lié au surf et au bien-être y a
En
pas...
vrai, c'est un peu l'image qu'on a du surf maintenant, ça.
Ouais.
C'était pas l'image au départ. C'était quand même très, très je sais pas, grunge, quoi, les débuts du surf, tu vois. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est très un peu healthy, yoga, tout ça. Mais... je sais pas, moi je sais que c'est quelque chose qui c'est un des seuls trucs qui permet de... J'ai une tête qui marche... Enfin, j'ai un cerveau qui tourne beaucoup tout seul, quoi. Et c'est un des trucs qui me permet de vraiment débrancher, d'être complètement dans l'instant présent, voilà. Qui me fait du coup énormément de bien dans des phases un peu chiantes où... Voilà, enfin, j'en ai besoin maintenant, en fait. J'ai un espèce de truc où si je vais pas surfer pendant un mois, je suis... Ah,
ah ouais.
Ouais, ouais.
Ah, du coup, tu y vas souvent, quoi.
Dès que je peux, ouais. Ouais. L'année dernière, j'ai beaucoup bossé, donc j'y suis pas allée beaucoup, d'où le voyage au Mexique après. Et ouais, à fond. Ça me permet vraiment de me poser, quoi. De prendre du recul sur plein de trucs. C'est très, très cool.
J'ai une petite anecdote surf.
Mais
allez là !
Parce que moi aussi, j'ai eu le CE d'entreprise colonie de vacances hier. Et du coup, j'ai tout testé en termes de colo, dont la colo à Mimizan pour faire du surf.
Alors Mimizan, c'est où sur la France ?
C'est en bas à gauche.
Dans les Landes.
Ouais, dans les Landes. Et comme vous en doutez, pas un don particulier pour le surf, et encore moins à, je sais pas, je devais avoir 13 ans. Mais vraiment, le truc que je kiffais le plus, et je m'en souviens très bien, c'était d'aller plus loin après les vagues, quoi, avant que les vagues elles se forment. et de juste rester posée, pas surfer du tout. Ouais. J'étais là, non, mais moi, je suis bien posée sur la petite planche, on regarde le sun, tranquille. Et donc, j'ai beaucoup, demandé au prof si je pouvais juste aller là-bas et attendre. Et puis, vous faites vos trucs, là. Ouais. Parce qu'après, il faut revenir. Non, moi, je reste déjà.
Pépouse tranquille et tout.
Je reste pépouse tranquille.
Excellent. Ça m'en rappelle une, du coup. J'en balance une aussi. Mais alors, c'était pas une anecdote de surf, mais c'était au Sri Lanka et il y avait des énormes vagues. Lourd. C'était dans vraiment le sud du Sri Lanka.
C'était où, Mirissa?
Je sais plus, mais c'était genre... ce que j'ai fait vraiment... Une ville par jour quasiment, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et pendant 10 jours, on voyageait avec ma copine de l'époque. On faisait une destination par jour. Et donc, à un moment, on était dans le sud et on est allé dans un endroit, je me souviens plus du nom, mais il y avait plein d'immeubles, d'hôtels un peu en construction près de la plage. Mais pour l'instant, il n'y avait rien de construit encore. Quoi.
Ouais.
Donc, c'était un peu en mode, oh là là, bientôt ça va changer tout ça. 2000, c'est juste après que j'ai fait Max et Jaco au Vietnam, après. Donc, je sais plus, 2015, 2016, un truc comme ça. 2016, 2017. En fait, j'étais parti faire un voyage, des vidéos au Vietnam, et après, je voulais avoir un moment sans caméra.
On devait y être quasiment au même moment. Quoi.
Ah ouais, mais je te retrouverai les dates après, mais genre vraiment, tu te rendais compte que là, le pays, il était en train de ça va être Touristland très vite, quoi.
Très
c'est
vite,
tout,
ouais.
Tout commençait à se construire, et là, il y avait je suis tombé dans un hôtel qui est vraiment pas cher, trop bien, avec une plage incroyable, hyper grande, et des vagues. J'avais jamais vu des vagues comme ça. J'avais pas de planche, mais genre juste j'allais affronter les vagues. Enfin, j'étais donc,
mais ça, j'adore.
et c'était ouf, sauf que vraiment, je pense que c'était un peu débile. À la fin, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un combat de boxe, quoi, parce que je me faisais embarquer dans le truc. Parfois, je savais plus où j'étais. Je me faisais rouler bouler dans le truc. Je savais plus où était le sol.
C'est dangereux.
Ne faites jamais ça.
Mais moi, j'adore.
En fait, moi, je voyais les vagues. Je dis, faut y aller. C'est rigolo.
Oui, oui.
Mais en fait, elle était beaucoup plus grande que ce que j'ai. Enfin, beaucoup plus dangereuse.
Un petit short break là et it's a ciao. Moi, je me suis fait une frayeur comme ça de trucs où vraiment, je me suis fait prendre. Je suis sortie marée trop haute avec le longboard. Donc moi, il faut savoir que je surfe avec une planche qui fait 3 mètres de long. Donc c'est vraiment un truc gros, quoi.
Ah ouais.
Et en fait, pour sortir le short break, c'est vraiment t'as la vague, elle casse, mais que sur le bord-bord, quoi. Donc en gros, t'as pas de mousse qui te ramène tranquille au bord. C'est vraiment... tu te fais aspirer, tu te fais jeter par terre comme ça, quoi. Et je me suis fait une frayeur avec mon longboard. En plus, c'est dangereux parce que c'est vraiment... Tu peux te le prendre dans la gueule et tout ça. Ah ouais. Et...
Il est accroché à ta jambe ou pas?
Ouais, c'est ça.
Ouais, il est accroché à ta jambe, t'as un leash et tout. Là, moi, je l'avais détaché. Limite, tu le laisses partir, en fait, ton longboard, si t'es en galère. Et vraiment, je me suis fait prendre par la vague. Et j'ai vu, genre, je suis arrivée face, tête, par terre. Et je me suis dit, vraiment, j'ai eu tout ralenti de me dire, et ça y est, this is the end. Tu vas pas du tout te relever de cette vague. Et je me suis fait éclater, tout truster le dos et tout. Je me suis dit, allez, it's a ciao. Et voilà.
Ouais, c'est vrai qu'il faut faire gaffe.
Non, il faut faire hyper attention. Et en vrai, vraiment, c'est des accidents comme ça. Dans les Landes, en été, en hiver, enfin, il y a moins de gens qui se baignent en hiver, évidemment. Mais c'est vraiment des gros accidents, quoi. Il y a vraiment des gens qui perdent l'usage de choses dans leur corps à cause de ça, quoi. Faire attention.
Donc, mais moi je comprends tellement le truc d'affronter les vagues et de dire vas-y on plonge en dessous.
Ouais.
Ne faites pas comme nous.
Faut observer.
C'est la nature nous offre.
Et c'est une non fin de phrase.
Philosophe.
En parlant de nature, petite transition. Ton tournage dans les Pyrénées, ouais. T'as des petites anecdotes un peu, non? T'étais à la montagne pendant.
Pendant j'étais un mois. À la montagne. C'est pas vraiment une anecdote, mais en gros, on a tourné à plus de 2000 mètres d'altitude sur un décor quand même très tricky. Ça veut dire qu'on pouvait y aller que en 4x4 pick-up, genre un gros 4x4 et tout. Route à sens unique, donc. Pas de pick-up qui peut se croiser.
Ouais.
35 minutes de piste. Et donc, on arrivait en haut, une petite bergerie magnifique, enfin vraiment sublimissime. Et sauf que tu es à 2000 mètres d'altitude en septembre-octobre. Donc, en gros, c'était une vraie galère parce qu'on tournait, je sais pas, genre une séquence, un début d'une séquence, donc tout un axe. Donc, en gros, c'est vraiment genre, je sais pas pour expliquer aux gens comment on peut dire ça, mais un axe, c'est un sens. Et ensuite, tu te retournes et tu filmes l'autre sens. Et donc, tu fais le premier axe.
T'as tout le matos derrière.
T'as tout le matos derrière, l'équipe technique et tout. Exactement. Et donc là, on faisait genre grand soleil, machin, et cut 2000 mètres en septembre, si tu veux, genre en 5 minutes, il fait nuit, quoi.
Ah, oui.
brouillard total et donc tu peux pas finir ta journée. Donc en gros, on avait je sais pas, genre une quarantaine de séquences à tourner en 15 jours. Mettons, je sais pas, c'est un chiffre au pif, je me souviens plus. On faisait tout le temps, c'était la loterie, on changeait, on était là. Ah bah non, du coup, alors on va faire la 62. Ah non, bah non, 23. OK, t'es prête pour la 23? OK, super. On change de costume, machin. C'était une galère sans nom, vraiment.
Et du coup, tu devais apprendre le texte de tout le film d'un coup, alors
Moi, je savais tout déjà, ouais. Tout ça en vrai déjà de base. Alors, je fais pas ça à chaque fois, mais il y a certains projets sur lesquels j'aime me dire qu'à partir du moment où je démarre le film et je le termine, en gros, je pourrais tout tourner d'affilée.
Ah ouais.
Et je serais prête, tu vois. Et donc sur celui-ci, en tout cas, dès qu'on a senti que ça allait être comme ça, toutes ces séquences-là, je les savais, quoi.
Je me permets de faire une autre transition géniale. Cinéma nature, festival de cinéma au ski. J'ai vu que tu faisais, que t'es allé.
Ah ouais.
C'était il y a longtemps. J'ai vu que t'avais fait ça. Et en fait, je le vois, ce festival. Il y a un festival
de l'Alpe d'Huez.
Ouais, c'est ça. Et
ouais. Alors trop bien, le festival de l'Alpe d'Huez. Ouais. Génial. J'ai plusieurs histoires avec le festival de l'Alpe. En gros, nous, on a eu un démarrage avec le film Babysitting. Donc à l'époque, c'était en 2014.
On peut dire ce que le contexte du festival, c'est.
En fait, c'est un festival de comédie.
Ouais.
Qui récompense la comédie française.
Okay.
Et donc ça se déroule à l'Alpe d'Huez au mois de janvier. T'as un jury qui est formé, je sais pas, de 4-5 membres de jury. Donc t'as des acteurs, des musiciens, généralement c'est plus des réals, des acteurs, etc. Et ça se passe sur une semaine et en fait t'as plusieurs prix qui sont remis. Et donc ça fait une belle visibilité pour les films, les comédies françaises. Et nous on a eu une super aventure avec Babysitting. En fait on a eu en 2014 le prix du public et le prix... du jury.
Trop bien.
Donc double prix au Festival de l'Alpe. On était trop contents, on était tous pas du tout connus et tout. Donc ça nous a mis un gros push, quoi. Et là, d'autant plus cette année, là maintenant, j'ai mon amie, ma grande amie Charlotte Gabris qui a écrit un court-métrage à l'automne, là, en disant, bah vas-y, moi j'écris plein de projets de la série, du long-métrage, etc., que je souhaite réaliser, mais j'ai jamais vraiment montré ce que je savais faire en réalisation. Donc je vais faire un cours, faut que je fasse un cours que je puisse présenter à l'Alpe, quoi. Donc vraiment, c'était le but, c'était d'écrire un cours pour le présenter à l'Alpe. Et donc moi, j'étais en pleine coupure sur Belle et Sébastien, et elle me dit, vas-y, quand tu termines, on tourne, quoi. Donc chaud, trop bien, elle m'envoie le scénar, trop bien, et tout ça. Et donc ça s'appelle Celle qui n'avait pas vu Friends, et on a tourné ça en 2 jours, vraiment... Elle a monté tout en kata et tout ça pour le présenter à l'Alpe et tout, et elle a gagné le prix, quoi.
Trop stylé.
Ouais, trop stylé. Et le film est génial, voilà, avec Antoine Gouy, Janice Bouziani, Ornella Fleury et Charlotte Gabris.
Il est dispo ou parce que j'ai pas vu passer.
Non, pas encore.
Ça tourne en festival, c'est pour ça.
Ouais, exactement. Non, mais en vrai, on a gagné le prix du Festival de l'Alpe d'Huez, donc c'est le prix OCS. Donc probablement qu'il sera bientôt dispo sur OCS, j'aimerais bien.
Et alors, bon, est-ce que tu voudrais participer à notre petit concours d'anecdotes ou il faut qu'on s'accroche parce que apparemment ça va être compliqué là ?
L'anecdote qui fait peur.
Tu mets une musique qui fait peur ou pas ?
Pas du tout, mais je peux si tu veux. Je te mettrai un coup de perceuse si jamais le voisin il
se remet. Non, il a pas redémarré, t'as vu ? On l'a complètement. Ça se trouve, il nous écoute.
Oui, c'est clair, il écoute.
Ah ouais.
Alors raconte-nous.
Non, mais l'anecdote en avion, c'est un truc horrible. En fait, j'étais pas vraiment en voyage, j'étais en tournée promo. Ouais.
J'ai mal fait mon intro du coup. C'est pas...
Non, écoute, franchement, ça se relie. Ouais. C'est un voyage en avion. Franchement, ça fonctionne.
Okay.
Et en gros, en plus, c'était vraiment un vol tout pété. C'était un vol Perpignan-Paris. Donc, vraiment, prenez le train pour les vols nationaux. C'est vraiment. Voilà, je pousse là-dessus. Et on était parti en promo avec le rappeur Sneezy. Et notre réal n'était pas là. On était avec une nana de la distribution et tout. Et on est parti faire des tournées de salles. Machin. Il fallait qu'on soit absolument à Paris le soir, blablabla, pour présenter un autre truc. Une autre émission. Et on a pris un vol Perpignan-Paris. Et c'est des tout petits avions. C'est vraiment genre les ATR. Enfin, genre
avec des hélices ?
Non, quand même pas. D'accord. Mais tu sais, c'est les avions avec les ailes un peu derrière, les réacteurs derrière là.
Mm-hmm.
Je sais, je vais pas dire ce que c'est parce que je vais dire une connerie, mais voilà, c'est vraiment.
Oui, après on aura des procès pour Airbus et Boeing et tout, vaut mieux pas.
Non, te trompe pas. On a décollé, machin, tout se passait très bien. Et moi, il faut savoir que je suis un vrai chat noir en avion. C'est-à-dire que je l'ai pris très tard, donc déjà, je suis pas quelqu'un de très confiant en avion, j'aime pas ça. Mais ça va, genre je le prends. Et il m'est arrivé que des galères. Et c'est vraiment la vanne. Donc tu vois, je dis à Amine, ouais, bah tu je suis un peu un chat noir en avion et tout. Et là, ah ouais, super et tout. Et on décolle. Et moi, je suis pas hyper bien, mais je suis calme. Et d'un coup, genre, on sent que l'avion, il descend vite, fort. Pas en chute, hein. Mais genre, il accélère, mais vers le sol, tu vois. Et vraiment, Amine, il me regarde et tout. Et je suis là. Et je fais, non, mais il se passe un truc bizarre. Il me fait, ouais, il se passe vraiment un truc bizarre et tout. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend et tout. Ça fait ting, comme ça et tout. Et là, je vois, enfin, on voit la meuf, une... donc il y a une hôtesse qui fait comme ça.
Qui fait les allers-retours ?
Non, qui rentre dans le cockpit.
Ok, oh là là.
Qui... Et là, elle ressort du cockpit avec un casque, genre en mode je cuisine de la Crystal Meth, un casque de Breaking Bad.
What ?
Ouais. Un casque d'apiculteur, moi je vois.
Casque d'apiculteur, tu n'as jamais vu ça normalement quand on te dit dépressurisation de la cabine, t'as un truc en plastique qui tombe et c'est un truc que tu mets sur ton nez. Non, là, c'est un casque jaune avec marqué crew.
Ah ouais, donc c'est, on se sécurise avant de sécuriser les autres. C'est vraiment
on
ça, quoi.
Super bien. Nous, pas de masque, pas de dos, oh rien. Non. On a les oreilles qui font comme ça, tic, 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 tic et tout. Genre, ça descend, on est là, on comprend pas et tout. Et là, la meuf, elle arrive, elle déboule dans l'allée, elle se tient au siège et tout. Elle dit, bon, voilà, on a une dépressurisation de la cabine. On va tenter un atterrissage d'urgence. Et on était là, quoi. Attends, pardon, excusez-moi, vous avez dit le mot tenter, là. Vraiment, wow. Vous êtes sérieux? Et là, la meuf, vraiment, tu sens qu'elle est pas bien, quoi. Et
t'étais allée à Lourdes avant ou c'était après
Non, c'était après Lourdes. Ouais, ouais. Non, c'était ça, c'était en 2019, je crois. Ça date un peu.
Moi, peut-être moi, je commence
là, vraiment,
à prier, tu vois.
Non, mais tout le monde est pas bien, quoi. Oh là, enfin, bah,
tu m'étonnes.
Est-ce que c'est une vanne? Ouais, en fait, tu te dis à ce moment-là, quand il se passe ça, tu dis, donc quand il se passe ça dans un avion, c'est que c'est fini. Parce que normalement, il se passe rien, tu vois. Genre,
ça
des turbulences, c'est relou et tout. Mais dès que tu vois quelqu'un, genre un personnel navigant, en panique, tu te dis, bon, c'est la fin. Ouais. C'était... Et vraiment, je me fais le film et je me dis, Alice, t'as toujours eu peur en avion pour la simple et bonne raison que, en fait, tu savais au fond de toi que c'était comme ça que t'allais mourir.
J'avais raison.
Putain, je vous l'avais dit. Ça fait 10 piges qu'il m'arrive que des merdes. Et ben voilà, c'est pour ça.
Ah, les statistiques. Bah non.
Ah ouais, non, hardcore.
Non, mais t'as vachement plus de chance de mourir en traversant une rue.
Fermez
vos gueules. Non, mais c'est... Enfin, franchement, c'était horrible. Et donc, il se passe tout ça et on a pas d'infos. Et donc là, l'avion se stabilise. Donc, en gros, quand on a une dépressurisation de la cabine, tu descends à 3000 mètres pour que si j'aime, enfin, tu puisses respirer. Si voilà, okay. Nous, on était très haut, tu vois. En gros, c'est pour
comment
ça
tu sais, t'as vraiment potassé la dépressurisation avant.
Ouais, tu sais, ouais. Par exemple, tu sais que les mecs qui sautent en parachute, ils montent pas plus de 4000 mètres parce que
oui,
sinon tu peux pas respirer, quoi. Tu vois. Donc en gros, t'as pas assez d'oxygène dans l'air. Et non, et du coup, on n'a pas d'infos, tout ça. On sait juste qu'on est arrivé à altitude respirable, en gros, parce qu'on n'avait pas de masque. Rien qui est tombé et tout. Et ça tournicote. Et d'un coup, le pilote, il nous parle et tout. Il nous dit, voilà, alors écoutez, on sait pas ce qui se passe. On a la cabine qui est dépressurisée. Il y a de présence de fumée dans le cockpit. Donc on va faire un atterrissage d'urgence. On est en train de voir où est-ce qu'on va être dérouté. Et voilà, je vous tiens au courant. Et t'es là, wow. Fumée dans le cockpit, allez, yes. Ça part. Très très heureux, tout le monde très heureux, personne ne va bien.
J'ai fumé dans le cockpit, c'est parce que je suis en train de me péter une blonde. Oh non. Parce que je suis en pression,
stress.
Les gars, je suis en stress.
J'ai fumé un gros
il faut que
ouange.
Je me la fume, mais le faites pas vous.
Mais les gens, ils hurlent, mais comment ça se
passe? En fait, c'était en vrai, tout le monde était tendu, les gens sont restés ultra calmes.
Waouh.
Ouais, ultra calme. Amine, il a rallumé son portable, il a envoyé des messages sur WhatsApp en mode genre, en fait, qu'est-ce qui se passe, on sait pas et tout. Et je la fais courte parce que vraiment, ça a duré longtemps et après, le pilote. Petit à petit nous parle, il nous dit voilà on va être dérouté, je sais plus où est-ce que c'était, à Toulouse je crois. C'était vraiment flippant parce qu'on avait très très peu d'infos, on tournait et au bout d'un moment il nous dit on va atterrir là-bas, il se passe rien, on n'atterrit pas, tu te dis putain il se passe quoi et tout, pourquoi? Vraiment à ce moment-là tu te dis il y a de la fumée dans le cockpit, j'ai très très envie qu'on atterrisse en fait, j'ai pas du tout envie qu'on reste en l'air. Et du coup on a fini par nous dire ok c'est bon on va y aller, et là le mec vraiment nous dit bah ça va aller très très vite, c'est maintenant, on atterrit. Et genre, tu dis, ok. Et là, le mec, ça part, mais tellement fort et tellement vite. Tu dis, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tu sais qu'après, tu captes, mais en fait, les mecs, ils vident les carburants. Ils préparent toutes les pistes d'atterrissage. Il y avait genre 25 camions de pompiers sur la piste d'atterrissage.
Au cas où.
Bah ouais.
Ça s'enflamme.
Ouais. Et en fait, donc, tu vides tes carburants, etc. Machin. Et on a atterri en cata de ouf. Et l'avion, c'est. Moi, j'ai rallumé. Franchement, vraiment, j'ai rallumé. Quand le mec nous a dit, ça y est, c'est maintenant, on atterrit. J'ai rallumé mon téléphone, bah oui. J'ai envoyé des messages, en mode fin de vie, quoi. Oh. Et vraiment, tu fais le bilan. Et moi, j'ai vraiment fait le bilan. Et je me suis dit, ok, bon, bah, franchement, c'était cool. Wow. J'ai pas trop de regrets. C'était cool, c'était juste très court.
Putain, c'est ouf.
Je te jure, vraiment, c'est j'ai ouf. Fait le film de ma life.
Est-ce que t'avais un projet qui devait sortir et tout? Parce que moi, je sais que quand j'ai un projet qui va sortir et qu'il y a des turbulences dans l'avion, je suis toujours en stress. Je me dis, ah non, j'ai pas posté ma vidéo et tout. Je peux pas mourir maintenant.
Mais nous, tu sais que vraiment.
J'ai encore tellement de choses à accomplir.
Il faut que je la poste.
Tu sais que vraiment, on a eu des doses de. Enfin, des fausses. On s'est fait avec Amine des fausses couvertures du Parisien parce qu'on sortait un film genre une semaine après, tu vois. Ils sont morts dans un avion, et tout. Et vraiment, c'était atroce. Et donc, on atterrit et l'avion s'arrête. Et là, genre, il y a 4-5 personnes qui s'évanouissent.
Ah bah ouais.
Ah ouais, je te jure, vraiment, les gens...
Même le voisin, ça l'a
fait flipper. T'as vu, il s'est remis à faire un coup de perceuse. Et j'ai reçu un coup de fil de mon agent. Enfin, genre, l'info avait tourné, tu vois, genre en atterrissant. Et en fait, on n'a rien eu. Tout s'est très bien passé, mais vraiment, c'était un épisode de fin de vie, quoi.
Il y a juste 2-3 gens près de Perpignan qui se sont pris de l'essence dans la gueule, peut-être.
Ouais,
mais...
voilà, exactement. Ouais, c'est à peu près ça.
Il pleut, quoi, mais il n'y a pas de nuages.
Au final, ouais.
Ah ouais, parce que vous étiez au-dessus de l'eau. Non, ouais, comment ça se passe? Ils ont viré l'essence juste
Je sais pas, mais ça, je pense que franchement, c'est pas ouf. Et le truc, c'est que je devais prendre l'avion 2 jours après, reprendre l'avion pour partir en tournage à Nice. Et là,
SNCF, hein.
Ah non, j'avais pas le choix parce que je devais être le matin pour une émission à Paris et je devais arriver avant 16h pour faire des essayages, un truc comme ça. Et Paris-Nice en train, c'est genre 6h, tu vois.
Ouais.
Et donc j'ai dû prendre un avion solo.
Wow.
Ah là là. Et je me dis, mais attends, 1h30, c'est pas possible, pas prendre de cacheton, quoi. J'étais, mais au bout de ma vie, je pense que chaque muscle de mon corps était contracté, quoi. Je me suis dit, mais c'est vraiment horrible.
Ah, je flippe. Donc prenez le train.
Vraiment, surtout, en plus, c'était hop, la compagnie. C'est vraiment comme si t'avais appelé, paf le chien, allez hop.
Et hop, finito pipo. C'est une excellente anecdote.
C'est une excellente anecdote.
Ouais, t'as mis la barre très haute.
Je sais pas si je l'ai vraiment très bien raconté,
moi j'ai ressenti là.
Après, moi, faut savoir que j'ai eu genre 4 atterrissages d'urgence, quasiment 4 trucs de redécollage.
Prenez l'avion, mais pas avec
Alice David.
Non, mais prenez pas l'avion, parce que vraiment. Et là, pareil, j'ai pris l'avion pour aller à Biarritz il y a pas longtemps, pour une promo, pareil. Et genre, c'était l'atterrissage, c'était horrible. Et tu te dis, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et à chaque fois, moi, j'ai des doses de on atterrit. Ah non, on n'atterrit pas. Donc le mec vraiment arrive. On est à 25 mètres du sol. Il redécolle, tour gratuit, tu sais pas pourquoi. J'ai eu ça, on a tapé la piste d'atterrissage. Je me suis payé le siège de devant. On a redécollé pendant 25 minutes. Et tu te dis, mais il s'est passé quoi? Okay, donc, prenez jamais l'avion avec moi.
Je me souviens, quand j'étais petit, moi, je prenais souvent l'avion tout seul pour aller voir mon père. Mes parents étaient divorcés, tout ça. Je faisais Nice-Paris très régulièrement, donc je voyageais tout seul. Et vous savez, il y a les petits formulaires au début qui indiquent toutes les situations bizarres. Et donc, t'as ce fameux avion qui s'incline, qui montre que c'est ça, ces situations d'arrêt d'urgence.
Ouais.
Et je me souviens,
fin de vie.
Et en fait, je me souviens que j'étais petit, il y avait des personnes âgées à côté de moi, et donc ils devaient me gérer, si jamais il y avait un problème. Et moi, je leur montrais le fascicule en disant, je voulais faire le malin comme quoi je voyageais hyper souvent, je disais, alors ça j'ai déjà eu, et tous les trucs un peu pas normaux, quoi, genre atterrissage d'urgence, alors en fait pas du tout, quoi. Mais en fait, ouais, je veux jamais vraiment vivre un atterrissage d'urgence comme ça, quoi.
Et en vrai, tout le monde est resté hyper calme, et c'est vraiment au moment où on a atterri où les gens ont craqué, quoi. J'ai atterri, j'ai eu le coup de fil du Rodolphe Logal, réalisateur de notre film, qui était là, putain les gars, franchement on aurait fait 1 million d'entrées si vous étiez crashés, c'est hyper relou. Mec, ta gueule,
la bonne blague.
en vanne, en plus Rodolphe Logal, c'est un mec extraordinaire. Et
bien sûr, c'est quoi, c'est un producteur? Salut Rodolphe.
Salut. Tu connais ton Insta?
et mon agent, tu vois, je pense que la meuf des distributeurs avait passé l'info, quoi. Mais c'était vraiment flippant. Et après, t'as un espèce de petit, comment on appelle ça, stress post-traumatique.
Bah oui, c'est ça, oui.
Genre, t'es PTSD. Très très fatigué. Moi, j'étais épuisée, genre pendant 48 heures, avec des montées d'angoisse et tout, horrible.
Mais je pense qu'il y a des gens, ils peuvent plus jamais prendre l'avion après vécu ça, quoi. Toi, le fait que t'aies réussi à le prendre 2 jours après, moi, je trouve ça hallucinant.
En vrai, j'avais pas le choix, sinon je l'aurais jamais fait.
Ouais, enfin, t'as toujours le choix. Je sais que t'as des joueurs de foot, il y a des déplacements qu'ils font pas parce que c'est jamais de la vie je prends l'avion. Donc soit ils partent en bateau pour les Coupes du Monde, par exemple, il y en a, ils viennent en train, en bateau, en machin, parce que c'est hors de question qu'ils montent dans un avion.
Ouais.
Donc ça existe.
Après, moi, j'ai pas le même pouvoir que les gars font la Coupe du Monde, tu vois. Mais c'est vrai que. Non, puis après, je me suis dit, il faut soigner le mal par le mal. J'ai envie de continuer à voyager, etc. Si à un moment donné, je ne peux plus prendre l'avion à cause de ça, ça me fait chier, tu vois. Et je me suis dit un autre truc.
Oui.
Il m'est arrivé un dos comme ça. Ça veut dire que il m'arrivera plus rien. C'est en termes de proba. Attention,
c'est clair dans les stats. Attention.
Tiens, mais touche un truc là, t'es en train de te foutre toute seule.
Là, c'est enregistré dans Tourista, donc ça serait vraiment.
On touche
ça,
tous du bois pour qu'il n'arrive rien. Allez, David. Allez, hop.
Normalement, niveau stats, t'es pas mal.
Normalement, niveau stats, je suis pas mal. Genre, même là, je joue au loto, je sais que c'est mort.
T'as beaucoup plus de chance en marchant dans la rue. Je l'imite bien dans le relou qui fait des stats.
Exactement. Mais tu précises quand même pour savoir si on n'avait pas compris.
Eh oui, bon.
T'as validé mes blagues.
Est-ce que... Non, elle était très très bonne, Marie. Je l'avais. Est-ce que t'as quelque chose à l'opposé, la quintessence du kiff total en voyage? Il t'est déjà arrivé un truc incroyable, une chance extrême, une rencontre formidable, la magie du
alors,
bonheur qui s'est installé.
J'ai eu un truc de ouf en avion.
Ah bah, en avion aussi. Pas forcément en avion, mais si c'est en avion.
Non, mais en fait, j'ai eu une espèce de combo de ouf. En gros, je partais pour tourner Babysitting 2 au Brésil. Oui. Et donc, je partais pour 3 mois. Donc, c'était un peu the big trip, tu vois. Et voilà, j'ai vraiment placé le truc en anglais. et du coup...
Le gros voyage pour les non-anglophones.
Voilà, et donc je partais et tout. Et donc, tu sais, j'étais à l'aéroport, j'avais mon gros sac, machin. T'appelles tous tes potes, tu sais que tu vas pas les voir pendant 3 mois. C'est un peu, tu sais, le petit blues et tout. T'es trop content de partir, mais en même temps, t'as un peu peur et tout ça. Et j'arrive, et donc je suis vraiment... J'arrive en cata à la porte de l'avion. Je me suis enregistrée et tout. J'arrive en cata avant de monter dans l'avion. Et là, la meuf prend mon ticket. Et ça fait vraiment... Donc ça, elle le passe et ça marche pas, je la dis ok, et elle me dit ok attendez 2 minutes, elle me sort un autre ticket comme ça, elle me le tend genre d'un air excédé absolu, elle me dit vous avez été surclassée mademoiselle, j'étais là écoutez c'est pas mal du tout, donc je me fais, je me chaque un voyage en business, déjà je commence.
Mais au lieu de te le faire en mode good mood,
elle me le fait en mode
jalouse quoi.
J'ai le seum de fou, j'étais là bon ça va, et donc je partais au Mexique avant d'aller au Brésil pour le mariage d'une amie, et du coup donc je faisais un Paris-Mexico et ensuite un autre vol etc, bref on s'en fout. Et on est dans l'avion, moi je kiffe ma vie de business, mais puissance 1000, c'est-à-dire que je prends du champagne, la glace, c'est pas une coupe de glace, c'est un pot de Häagen-Dazs qui te donne, enfin vraiment genre, je me roule dedans, tu vois, et je kiffe trop et tout, et tout le monde s'endort, et moi je suis tellement contente d'être là que je m'endors pas, et le pilote nous parle et nous dit, pour ceux qui dorment pas, à la droite de l'appareil, vous avez une aurore boréale.
Mais non.
Je te jure. Et donc je me dis. Et moi j'étais à gauche, donc je me lève et tout. Je trouve un petit hublot, un créneau parce que business, bah t'as de la place en vrai. Et je me cale là et aurore boréale incroyable au-dessus du Groenland, genre vraiment sur la mer de glace, genre magnifique en pleine nuit
incroyable.
Et tout, sublime. Donc vraiment, je suis refaite. Et
pas que de la poisse, hein, pardon.
Non, tu vois, comme quoi. Tu vois, j'avais oublié en plus cette anecdote, j'y pensais pas. Et bref, et donc j'atterris au Mexique, machin, et double combo, j'arrive chez ma pote, ils avaient une maison, c'était pour le mariage et tout, ils avaient une maison au bord de la mer et tout, donc vraiment trop bien. Et on se pose et tout, et c'est une amie d'enfance, et sa mère, elle est en train de nous donner à bouffer des fruits, des trucs et tout. Et là, je regarde la mer et je fais, putain, mais c'est quoi ce truc? Il y a un truc dans la mer, c'est chelou. Et en fait, il y avait genre 40 dauphins
mais non.
À 20 mètres... Je sais pas ce qui s'est passé. Genre, j'ai eu un espèce de 24 heures de fou avant de partir au Brésil. Et voilà. Et c'est une fin d'anecdote nulle.
Mais
les 25 dauphins, genre là, c'était
magique,
hallucinant.
Alors,
magique,
j'ai passé
magique.
De 40 à 25 dauphins.
Ouais, j'ai pas à compter. Mais en gros, non, mais en vrai, c'était fou parce que.
Il y avait un dauphin.
Non, putain, bon, c'est... Ok,
c'était à la télé.
Ok, c'était un ton. Ok, c'était un ton.
En fait, j'ai mis National Geographic.
Ouais, c'est ça. Et j'étais restée à Paris. Mange un bonbon.
Mother of Dreams.
Une bonne comédienne, Alice. Hein. On y a cru jusqu'au bout.
Ouais,
hein.
Jusqu'au bout.
Eh ben non, mais franchement, deux anecdotes hyper bien, hyper. On a voyagé, on n'a pas eu envie de voyager aussi un moment, mais
j'ai vécu un truc horrible en voyage.
Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.
Tremblement de terre à Lombok. Attends, je suis en train de mâcher des bonbons, c'est dégueulasse. Non, j'ai vécu des tremblements de terre assez. En vrai, c'est pas drôle comme anecdote. C'est vraiment pas sympa non plus.
Non, mais c'est une aventure.
Ouais.
On prend les aventures.
J'étais dans une petite île qui s'appelle Nusa Lembongan, à côté de Bali. Il doit y avoir plein de gens qui connaissent. Et j'étais partie pour surfer, évidemment. Et on a vécu des tremblements de terre assez forts. J'étais avec mon copain de l'époque. 7 sur l'échelle de Richter, quand même.
Wow.
Ouais, ah ouais, c'était violent.
C'est beaucoup, je crois.
C'est beaucoup, beaucoup. Ouais. Bah, elle va c'est, en fait, en vrai,
je sais pas, mais 10.
Ah ouais, bah oui, donc du coup, c'est beaucoup.
Ouais, mais genre.
Parce qu'elle allait...
En vrai, tu tiens pas debout, 7.
Fukushima, je crois, c'est 8 ah oui, et quelques, tu vois.
Non, Fukushima, je crois que c'est vraiment vénère, je crois que c'est 9 ou un truc comme ça.
Bon, je dis n'importe quoi.
Attention, Wikipédia, on va reprendre Wikipédia, Maxime.
Vas-y,
non, mais cherche-le, en vrai, j'ai trop envie de savoir. Et ouais, non, on a. Et en fait, c'est très bizarre. Le premier qu'on a eu, il a commencé à 5h du mat, donc je dormais. Et on était dans une espèce de petite cabane en, un peu en bois, avec, tu sais, c'est des petits trucs où t'as des cabanes en bois et t'as une petite piscine au milieu et tout. Okay. Enfin, t'as plusieurs, comme un espèce de mini village, quoi, genre de. Enfin, bref, c'est très nul comme description. Et le matin, il y avait des enfants qui jouaient, qui parlaient et tout ça, et j'entends que ça crie, des enfants qui crient et tout. Et je suis dans mon sommeil, et en fait, j'ai vraiment le sentiment que les enfants sont en train de secouer la cabane en bois comme ça.
Ouais.
Et qui hurle et tout, et genre tout bouge partout dans la cabane et tout. Et je me dis, mais ça se passe et tout. Et mon mec me fait, mais c'est dans un tremblement de terre, tout est normal, ne bouge pas, ça va bien se passer, ça va s'arrêter. Et j'étais là, ok, très bien. Et là, ça s'arrête, on sort de la cabane et on voit la piscine au milieu, mais un raz-de-marée dans la piscine. Et tu te dis, c'est quand même très chelou quoi. Et en gros, on en a eu plusieurs, on en a vécu sur plusieurs jours comme ça. Et c'était assez flippant quoi, parce qu'en vrai, tu sais pas trop où te mettre à l'abri. Et on était sur une toute petite île avec, où le point culminant de l'île, donc après ça t'as alerte tsunami et tout ça quand même, hein, c'est pas très cool, et le point culminant de l'île c'est 20 mètres de haut, donc en gros t'es là, bon bah si on a un tsunami qui fait 25 mètres on est baisé tranquille, et donc on s'est tous réfugiés sur l'île, etc. Enfin le dernier tremblement de terre qu'on a eu c'était un 7,2.
Fukushima c'est 9,1, voilà.
Tu vois, c'est ça, c'est 9,1, c'est ce qui me semblait.
Bon,
et en fait, donc le deuxième vraiment violent qu'on a eu, c'était un soir, on était au resto et tout ça, et donc puis en fait, tu commences à regarder tout ce qui est autour de toi, tout ce qui peut te tomber sur la gueule, tu vois, les toits, les pylônes électriques et tout ça. Et on a eu vraiment le plus violent, c'était le soir, et on a eu ce tremblement de terre, puis on s'est dit bon bah on prend le scoot et on va en haut quoi. Donc on s'est retrouvé en haut sur une espèce de en haut de la colline avec toute l'île en fait qui était là. À se dire, on attendait les alertes tsunami et tout. Alerte tsunami qui tombe, t'es en haut, t'attends, tu dis qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu vois, il y a trois pylônes électriques énormes. Tu dis, ok, si ça retremble, il faut qu'on aille un peu plus loin, donc un peu plus bas, mais au moins on se prendra pas les pylônes et tout. Donc c'était assez hardcore. Et donc on a dormi, on a hésité à partir. Puis on a fini par partir au bout de quelques jours, quoi, genre 4-5 jours. Et en vrai, on dormait avec nos baskets. On avait un sac, genre on dormait habillé.
Ouais.
Avec nos baskets et un sac avec passeport, trousse de secours, genre au cas où il faut partir en cata, tu vois.
Oh là là.
C'était
oh là là.
Hardcore, ouais. hardcore. Et on est parti, on a eu des tremblements de terre quand on était à Bali pour reprendre l'avion, on s'est barré ailleurs après. Et gros tremblement de terre quand on était à Denpasar, quoi, à l'aéroport. Et là, tu dis vraiment, c'est le pire endroit pour un tremblement de terre, quoi. Voilà.
Eh ben
c'est super. Bah voyager avec moi, c'est hyper cool. Très bonne vibe.
Dis donc, tu as vécu beaucoup de catastrophes, mais quelles catastrophes t'as envie de vivre dans ta bucket list? Quelles sont les... Non, pardon.
Écoute, pour le moment, je suis pas mal. Non, ça va.
On demande aux gens à la fin, dans leur bucket list, quels sont les trucs que t'as pas encore fait dans ta vie, que tu rêves de faire, quelque chose en des lien avec le voyage, une expérience des pays.
Waouh, je sais pas du tout. En vrai, j'aimerais bien aurore boréale, vraiment très très
de dessous ce coup-ci.
De dessous, ouais. Non, vraiment, ça c'est un truc ouais. J'adorais. Non, je sais pas trop. C'est,
L'Australie, c'est pas un spot à surfer.
Si, alors l'Australie, le problème de l'Australie, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de requins.
Oui, et puis toi, vu ta poisse,
vu ma poisse, si tu veux, j'ai pas
du... les orteils, là, non.
Non, j'ai pas du tout envie. Et requins, beaucoup, beaucoup. J'ai des potes qui ont surfé là-bas. T'as vraiment des hélicoptères qui arrivent et qui disent « Ok, shark, il faut sortir de l'eau. » Et voilà, tu sors de l'eau et tu te dis « Super. »
Non, il y a beaucoup d'accidents. Des belles anecdotes, en tout cas.
Ouais, écoute, je m'y frotterai pas tout de suite. Mais avec ma chance, je peux vraiment en croiser à Hossegor, tu vois. Donc, tout va bien.
À côté de 50 dauphins qui ont fait le déplacement pour te refaire
ils
un petit coucou. Des dauphins
47.
Sous les orbes, c'était ouf.
Eh bien, merci Alice. On a vachement voyagé, beaucoup de folies, d'anecdotes, beaucoup d'adrénaline dans cet épisode. Moi, je suis un petit peu tendax, mais c'était super. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci Marie pour ce super quiz, ces folles anecdotes
rien,
et ces questions incroyables. Merci aux touristos, c'est aux touristas. En fait, je dis de mettre des petits commentaires sur Apple Podcast et tout, mais en fait, je crois que ça, c'est à l'ancienne de ouf. Moi, je prenais
des commentaires partout.
Mais si vous voulez mettre des commentaires partout et des petites 5 étoiles sur n'importe quelle application, on prend, on lit vos commentaires, ça nous fait plaisir et tout. Merci, ça nous fait grossir en plus. Abonnez-nous. Abonnez-nous. Non, si vous voulez vous abonner au compte Instagram de Tourista que Marie gère d'une main de maîtresse.
Oui, et on est dimanche, donc allez voter.
Ah, excellent.
Oh là là, urgence, allez voter. Allez. Urgence, allez voter.
Excellent.
Et vous pouvez
Marie.
Voter. Si vous n'avez pas de carte électorale, vous pouvez voter simplement avec votre carte d'identité en mairie, si je dis pas de conneries.
Bah, faut juste savoir
il suffit de regarder sur Internet liste électorale, vous mettez votre nom, votre prénom, votre date de naissance et il vous dit où est-ce que vous êtes inscrit.
Et allez-y, c'est important.
C'est
oui.
très
important. Voyez tout choix du cœur.
Là, je suis en train de voter, là.
T'es en train de voter.
Ouais,
sublime,
là j'ai voté. Là.
Bah moi aussi là j'ai voté.
Et alors, moi j'ai procu aussi. J'ai une procu.
Ouais,
je vote de force.
Oh là, on est.
Qu'est-ce qu'on est bon, Marie, tu es championne. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé que c'était dimanche. Excellent. Eh bien bon vote, bon épisode et à dans 2 semaines.
Oui, allez, bisous.
Avion. Non, pas d'avion ce coup-ci. Non, j'ai trouvé autre chose.
À voter.
À voter. Voilà.
À voter.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.